Si des scientifiques découvraient dans la nature un singe qui accumulait plein de bananes au détriment de sa tribu, on l'étudierait pour comprendre qu'est-ce qui va pas chez lui. Et quand les humains font ça, on les met en couverture du Times.
Bonjour Maïeu.
Salut Dauro.
Aujourd'hui, on va parler de ville au Honduras. Pas de thé, je crois, ou Honduras. J'ai pas l'impression qu'il y en a en Amérique latine, d'ailleurs.
Ah, je ne sais pas.
Ça me dit rien, en tout cas. Mais bon, on va quand même en boire entre nous. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je bois un thé dont la seule information que j'ai, c'est son nom qui est Kagoshima Bio. Et c'est un matcha, donc un thé japonais. J'assume qu'il vient de Kagoshima, du coup.
Ouais, je pense, ouais.
Je crois que j'avais pas bu de matcha depuis au moins l'été dernier.
Ça, c'est vrai que j'en bois très peu souvent.
Il est un peu vieux, donc je pense qu'il a quand même un peu perdu de goût. Parce que si ça fait presque 9 mois que j'en ai pas bu, ben forcément, il a un peu perdu. Et puis j'ai vu qu'il restait vraiment à fond au moment où je l'ai ouvert. Je ne l'ai pas trouvé si intéressant que ça. Je l'ai fait peut-être un peu léger aussi, sans m'en rendre compte. Parce que pareil, vu que ça fait très longtemps que j'en avais pas fait, je n'ai plus vraiment les doses en tête. Je ne le fais pas sur une balance ou un truc comme ça, je le fais vraiment à l'œil d'habitude, le matcha. Donc avec la petite cuillère en bambou, tout ça, tout ça.
Tu le fouettes à la main ?
Oui. Tout à fait, et je n'ai pas une belle mousse homogène.
Ouais, alors voilà, moi c'était mon truc. J'ai jamais réussi à la maison à retrouver ce que je peux boire à l'extérieur où il y a des gens qui ont vraiment l'habitude, quoi. Je sais pas, mais même le goût et la texture, j'y arrive pas.
C'est tout un art.
Ouais.
Mais donc voilà, je pense qu'il avait globalement perdu le goût parce que même si je l'avais un peu sous-dosé, là j'avais vraiment très très peu d'amertume, donc je pense que j'ai mis trop d'eau, mais malgré tout, j'avais pas du tout un goût très présent, donc pas grand-chose à dire sur lui. Et de toute façon, n'ayant pas plus de précision qu'il vient de Kagoshima. Et toi, qu'est-ce que tu bois ?
Eh bien, je bois un Dongding. Ça fait longtemps que je n'avais pas bu. Donc, c'est une sorte de houlong. Il s'appelle New Style.
Ok.
Seul truc que je sais, c'est que ça vient de la région de Nantou à Taïwan. Et puis, bon, les houlongs de Taïwan, quoi. Voilà, c'est vraiment... un style de thé que j'apprécie beaucoup. Il est extrêmement parfumé. C'est assez chaleureux comme goût aussi. C'est assez doux comme ça. Ouais, non, vraiment, j'adore ça. Et puis, tu peux les infuser plein de fois et il y a toujours du goût. C'est vraiment super.
C'est un type de goût, je trouve, qui va bien avec un hiver et être au chaud chez soi pendant qu'il fait froid dehors.
Mais aussi, je trouve, si tu les fais infuser à froid pour l'été, ça fait un super thé froid, c'est vraiment chouette.
Ouais, c'est vraiment des thés qui sont très agréables. Aujourd'hui, on va parler d'une ville qui s'appelle Prospera, une ville un peu spéciale au Honduras, au nord de l'Amérique du Sud, juste en dessous de Mexico. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, du coup, cette ville ?
C'est une ville qui a été dans la construction un peu, où la mise en place a commencé en 2021. Et c'est une charter city. Charter city, c'est... un petit peu basé sur des idées de zones de développement économique spécial. Par exemple, en Chine, il y a eu Shenzhen dans ce cas-là. Mmh. Peut-être qu'on peut aussi penser à, sans le côté colonial, mais certaines anciennes colonies britanniques, je ne sais pas, Hong Kong ou je ne sais pas quoi, qui est du coup un territoire dans un État, mais qui en fait n'appartient pas à l'État en question ou qui ne suit pas les règles, les lois... Donc là, en l'occurrence, pour Prospera, c'est sur le territoire du Honduras, mais ça n'est pas régi par les lois du Honduras, hormis les lois criminelles. C'est-à-dire que toutes les lois de régulation financière, de régulation civile, etc., etc., du Honduras ne s'appliquent pas. Tout ça, c'est basé sur une idée d'un prix Nobel d'économie qui s'appelle Paul Romer, qui a émis ça en 2012 pour dire... tiens, mais ce serait peut-être un super truc que soit des pays hautement industrialisés, un peu plus riches, soit éventuellement des investisseurs privés, en fait, achètent à un État un peu plus pauvre le droit de, d'avoir une zone économique spéciale pour faire des trucs, quoi, et reversent une partie de leurs profits à l'État en question.
On est vraiment un peu sur cette idée que des investisseurs privés vont prendre le contrôle d'une zone, un peu appliquer leurs propres lois. Donc, comme tu disais, il y a pas de, c'est pas les lois du Honduras qui s'appliquent là-bas. Et l'espoir, c'est que ça rende le Honduras plus riche d'une manière ou d'une autre. J'ai l'impression qu'on est complètement sur cette idée de... Ah mince, le terme français m'échappe. Trickle-down economy.
Ruissellement.
Oui, voilà, la théorie du ruissellement. Si je dis pas de bêtises, cette théorie a été complètement débunkée depuis pas mal de temps, scientifiquement parlant. Piketty, c'est un économiste français, c'est ça, si je dis pas de bêtises, il s'appelle Piketty.
C'est ça, ouais.
Il me semble que lui a fait beaucoup de recherches sur ce sujet et il y a 4 ou 5 ans avait sorti tout un rapport qui étudiait le sujet sur plusieurs décennies et qui globalement démontrait que ça n'avait pas lieu. J'ai quand même l'impression que oui, Prospera, c'est un peu ça, quoi.
Dans le cas de Prospera, vu que pour les Charter City, il pourrait y avoir deux options possibles. Hein. Soit c'est un autre État qui achète du terrain et voilà. Mais l'autre cas, à part un État, c'est que ce soit des investissements privés. Et c'est le cas de Prospera. Là. C'est juste des investisseurs privés qui vont pouvoir implémenter leur société, qui se sont mis là-bas. Du coup, c'est eux qui ont choisi leur loi civile. Encore une fois, s'il y a un meurtre ou autre, c'est quand même la loi du Honduras qui s'applique, mais c'est vraiment le seul truc, quoi. Tout ce qui est réglementation financière, loi du travail, peut-être sûreté médicale ou ce genre de choses-là, c'est eux qui ont décidé des trucs, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont décidé qu'il n'y a rien ? C'est à peu près, je pense que ça résume bien.
Oui, apparemment, en termes de loi, chaque entreprise qui s'installe peut choisir sa propre régulation. D'une entreprise à l'autre, les règles vont être complètement différentes. Pour l'instant, c'est très aussi c'est important, c'est quand même extrêmement petit. Hein. 3 ou 4 bâtiments et quelques maisons, globalement.
La page Wikipédia dit qu'il y a 2000 personnes qui y habitent.
Ah, quand même.
Est-ce qu'ils y habitent vraiment ? C'est pas dit. Ils ont aussi peut-être pu juste s'implémenter là-bas et en fait... comme ce sera plutôt des gens à très haut revenu,
oui.
Le truc fiscal, ils sont installés là-bas, quoi. Mais...
Oui, parce que dans les faits, globalement, il n'y a que des millionnaires et des milliardaires qui habitent là et investissent là-dedans. C'est l'un des points qui, apparemment, est problématique. Comme on disait, il y avait cette idée que le gouvernement local devrait avoir un intérêt économique à héberger ces villes. Mm-hmm. Dans les faits, pour Prospera, en tout cas, apparemment, il n'y a pour l'instant pas eu de versement d'argent au gouvernement du Honduras.
Ou alors qui ne sont pas vraiment connus, quoi. Et ce qui est un petit peu bizarre que ce ne soit pas connu, du coup, parce que si vous le faites, pourquoi vous ne le dites pas ?
Tout est vraiment très, très opaque autour de tout ça. Les communautés locales n'ont pas l'air très d'accord avec cette histoire non plus. Si on reprend un peu l'historique de la création de Prospera, il y a eu un président qui a ajouté ce qui s'appelle les ZEDE, dans la constitution du Honduras.
Donc en anglais, les Zones for Employment and Economic Development, donc zones pour le développement de l'emploi et de l'économie.
Donc il y a eu ce président qui a modifié apparemment la constitution du Honduras pour ajouter ça, ce qui a permis la création de Prospera. Mais ensuite, d'autres organes du gouvernement du Honduras disent que cette loi, même si elle est dans la constitution, elle est en fait inconstitutionnelle. Donc techniquement, Prospera serait dans l'illégalité. Entre-temps, le gouvernement a changé. On est passé à un gouvernement qui était de gauche. Ce gouvernement voulait apparemment plus ou moins virer Prospera. Prospera les a attaqués en justice. Non, ou ne les a pas attaqués, mais leur met un peu ça en tant que menace, en fait, pour éviter de se faire virer. Parce que s'ils gagnent, le Honduras ne pourrait même pas payer ce que Prospera demande. Il y a une histoire de ce type-là. Mais entre-temps, il y a eu de nouveau des élections et c'est le président précédent encore, donc celui qui avait mis en place Prospera, enfin en tout cas c'est le parti de ce président qui est de nouveau à la tête du Honduras, sachant que le président en question, qui avait aidé à la fondation de cette ville, enfin, a des charges criminelles contre lui aux US pour trafic de drogue et d'armes. charge que Trump a levée. Maintenant, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un criminel. Tout va bien, j'ai envie de dire. Tout ça, c'est quand même très louche.
Ouais.
Disons que ça ne sent pas le truc fait avec l'accord de la population locale, de mon point de vue. Et le fait que ce soit que des millionnaires et des milliardaires, globalement, qui habitent là-dedans, ouais.
Abordons un peu qu'est-ce qui se passe à Prospera, pourquoi ils vont là-bas. Ces personnes-là ne sont pas juste « Oh, on va faire notre jolie villa et puis on se prélasse ». Ce n'est pas le but, en fait. Ils auraient déjà pu le faire ailleurs, ce n'est pas un souci, quoi. L'idée, c'est plutôt d'avoir une liberté commerciale et de recherche un peu absolue. Donc, qu'est-ce qu'on trouve comme société par là-bas?
Sans surprise, il y a des sociétés liées aux crypto-monnaies. Le Bitcoin est même utilisé pour payer les impôts et ce type de choses là-bas. Ce n'est pas non plus tant une spécificité que ça, mais c'est apparemment commun d'utiliser les crypto-monnaies. Et puis, évidemment, l'autre chose qui est présente et qui a mis un peu Prospera sur le devant de la scène, c'est toute une partie médicale et de recherche autour de la longévité humaine, parce que il n'y a pas de loi sanitaire là-bas, donc on peut tester des traitements expérimentaux qui ne sont pas approuvés par d'autres pays, etc. Récemment, en fait, il y a eu Brian Johnson, qui est un milliardaire américain qui est dans une quête de l'immortalité, qui est allé là-bas pour justement prendre un traitement expérimental qui est toujours non approuvé aux US, parce que il n'y a aucune loi qui empêche de donner ce traitement.
C'est pas une personne que je connaissais, mais dans l'article que j'avais trouvé qui parlait effectivement de Prospera, les deux angles d'approche, c'est ce qu'on vient de mentionner. C'était le côté crypto-monnaie et justement le fait qu'il y avait de plus en plus d'expérimentations débridées sur soit des thérapies géniques, soit des traitements, disons, biologiques généraux, quoi. Et du biohacking aussi, des gens qui veulent expérimenter un peu sur leur corps. Et...
Comme le hacking informatique qui est un peu de la bidouille, des essais, des expérimentations. Là, c'est la même idée, mais sur son corps. Souvent, quand on parle de biohacking, en fait, on parle de modification humaine. Rarement, on en parle hors du contexte humain.
Mm-hmm.
Ça peut être des modifications lourdes, ou dans le sens chirurgical, ou ça peut être des choses qui sont plus, moins invasives. Dans les exemples de choses beaucoup moins invasives, j'ai en tête quelqu'un qui avait fait un essai de... Il avait pris une boussole électronique, il l'avait mis contre, je crois que c'était son poignet, donc il faut imaginer une boussole électronique sur un bracelet. L'idée étant que la boussole vibrait, plus elle était alignée avec le nord. Et ce que lui, il essayait de voir, c'est est-ce que, à la longue, son cerveau allait naturellement en fait, prendre en compte cette information quand il se déplaçait dans la ville ou des choses comme ça, quoi.
Ouais.
Donc ça, c'est un exemple, par exemple, qui est très peu invasif. Parce que c'est juste un bracelet qu'on met autour de son poignet. Mais oui, ça va jusqu'aux gens qui se font des implants différents. Et puis maintenant, tout ce qui est thérapie génique et ce type de choses très, très expérimentales. Quoi.
Tout ça, spécialement l'exemple de la boussole, ce qui est peut-être le plus simple, hein, le faire dans nos pays occidentaux, en tout cas, où on a quand même des réglementations en termes de trucs médicaux, de responsabilité aussi s'il y a des problèmes et autres. Enfin, tu ne peux pas faire n'importe quoi, n'importe comment, en fait, ce qui rend donc ce genre d'expérimentation soit impossible, soit très compliqué, parce qu'il va falloir déposer des dossiers, ça va être très long, prouver que peut-être tout aille bien. Enfin, je ne sais pas exactement les processus, mais effectivement, ça ne le rend pas vraiment faisable. Donc là, ces gens sont bien contents de pouvoir aller à Prospera pour faire je veux faire ça, oui, ok, pas de problème. Et puis, ils ont un peu leur responsabilité de si ça ne marche pas, tant pis pour eux, en fait.
Ouais.
Ce qui, du coup, m'amène un peu à la question, est-ce que c'est bien ou pas tout ça? Ça permet aux gens d'expérimenter sous leur propre responsabilité et peut-être de découvrir des trucs. Mais moi, la question que je me pose quand même, c'est est-ce qu'il y a bien une rigueur derrière ou est-ce que c'est pas juste je bidouille des trucs sans trop savoir ce que je fais avec, du coup, des résultats C'est quoi ton avis sur la question, là? Est-ce que c'est bien qu'ils puissent tester des choses-là? Et puis... Est-ce qu'ils le font dans un cadre qui fait que ce soit exploitable après?
exploitable, tu veux dire, enfin, en tant que recherche scientifique.
Oui, voilà.
J'ose espérer que ces gens très riches qui comptent garder leur richesse le plus longtemps possible et vivent le plus longtemps possible ont quand même beaucoup d'experts autour d'eux qui vont vraiment donner leur avis et voir si c'est des recherches sérieuses ou n'importe quoi. Je sais pas, moi, ça me paraît très logique que si mon but c'est d'être immortel et que j'étais extrêmement riche, j'irais pas faire n'importe quelle thérapie sans avoir quand même énormément d'avis scientifiques autour de moi. Mmh. Sur le côté scientifique de la chose, je pense que pour l'instant, c'est relativement sérieux parce que c'est des choses qui sont récentes. Je pense pas que pour s'installer à Prospera, on puisse le faire avec 1000 francs d'un côté et puis dire je vais vous donner faire des thérapies ou quoi que ce soit. Donc je pense que pour l'instant, il y a un certain sérieux. Et puis ils sont encore dans une phase où ils veulent quand même essayer de démontrer que ce serait bien qu'on le fasse partout. Donc, je pense qu'ils font un peu gaffe.
Ouais.
Après, sur l'éthique de ce genre de choses, ben, là, on rejoint un peu ce qu'en médecine, on appelle le droit à l'essai, qui est cette idée que le patient devrait avoir le droit d'essayer en toute connaissance de cause. Il me semble qu'il y a des pays d'Europe où il y a ce droit à l'essai, mais c'est principalement dans les cas de maladies... où on sait que la personne, elle va mourir dans les quelques années, en fait. Par exemple, si on est atteint d'un cancer très grave et qu'il y a de la recherche en cours et qu'il y a un traitement expérimental qui est peut-être intéressant, il y a des pays où le patient va avoir le droit de dire « ce traitement qui est non validé encore, je veux l'essayer, quoi ».
On ne l'a pas testé, on ne sait pas s'il y aura des résultats, on ne sait pas si c'est sûr. Enfin, je dis on ne l'a pas testé, on ne l'a pas assez testé, disons. Mais bon, de toute façon, là, vous n'avez plus d'espoir de rester en vie. Donc, si vous voulez, on est d'accord de vous le donner. Puis, ma foi, bah, vous savez que, j'ai envie de dire, vous risquez peut-être pas d'empirer votre situation, mais ça risque aussi de rien faire, en fait. Par rapport à tu es sain et tu dis, tiens, je vais prendre cette nouvelle molécule. Et bon, on ne sait pas trop s'il y a des effets secondaires. Là, par contre, on n'a pas le droit de le faire dans nos pays.
C'est vraiment une histoire de risque-bénéfice. Une personne qui serait complètement condamnée... Le risque additionnel, en fait, il n'est pas énorme d'une certaine manière. Mmh. C'est un sujet qui est très discuté en médecine, il me semble, régulièrement. Et justement, suite un peu à bah, Prospera, j'ai lu que dans le Montana, aux US, donc, ce droit d'essayer, il existait, comme on disait, pour les patients en fin de vie. Apparemment, il est étendu maintenant à tout le monde.
Ok.
Est-ce que je suis contre quelque chose comme ça ? Moi, éthiquement, je ne suis pas contre le droit d'essayer, même sur tout le monde. Mon problème, c'est qu'il y a très peu de chances que tout le monde puisse complètement être au courant et complètement conscient de ce qu'il fait.
Ouais.
Parce que, ne serait-ce que dans un cas parfait où je ne prends pas en compte qu'il y a des arnaqueurs, les risques d'une thérapie, il faut quand même avoir pas mal de connaissances en médecine pour vraiment les évaluer. Et communiquer les risques et vraiment réaliser le risque, c'est quand même aussi toujours quelque chose de différent.
En plus, je ne sais pas trop, dans le cas de Prospera en particulier, hein, les personnes qui sont établies là-bas, qui du coup, il y a quand même un intérêt financier peut-être à vendre un traitement très cher parce que c'est expérimental à des personnes millionnaires au minimum. Dans quelle mesure ils ne vont pas un peu... s'auto-convaincre que non, mais vous inquiétez pas, c'est tout bon, ça va bien se passer, que la personne, du coup, qui veut prendre le traitement, ben, aura reçu ces informations-là, donc va peut-être faire ses recherches de son côté, mais il y aura quand même la pression du fabricant dessus à rassurer, quoi. Et va quand même prendre le truc, puis en fait, bon, ils étaient peut-être un peu trop, comment on va dire ça, optimistes, sans qu'il y ait une volonté de mal faire ou d'arnaquer, hein, mais juste un peu aveuglé par le « non, mais si, développons les trucs », vous inquiétez pas, tout ira bien, c'est bon. Et en fait, peut-être pas trop.
Il y a ce risque-là, de mon point de vue, dans le fait qu'il n'y a aucune législation et que c'est l'appât du gain. Et puis ensuite, oui, le risque suivant, c'est si tout le monde a le droit à l'essai, c'est à quel point tu te fais avoir par des arnaqueurs qui vendent tout et n'importe quoi. Là, qu'ils le font en connaissance de cause, mais protégés, entre guillemets, par le droit à l'essai. Mm-mm. On vous a informé, dans les petites lignes, il y avait marqué qu'il y avait telle molécule, machin, etc. L'information était là. J'ose espérer que les millionnaires et les milliardaires qui font ça demandent de plusieurs avis scientifiques en plus. Après, j'ai pas forcément une empathie très grande s'il leur arrive un problème, je vais pas mentir. De ce niveau-là, c'est bah, t'as voulu essayer un truc de riche, voilà quoi, tu, c'est ton problème quoi. Mais est-ce qu'il faut que ce soit généralisé partout, tout le temps ? Ça me paraît compliqué de réaliser un vrai droit à l'essai qui soit vraiment neutre.
Ouais.
Ça demande une législation, ça demande des règles. C'est impossible d'avoir, je pense, un droit à l'essai complètement neutre s'il n'y a aucune règle qui le gère.
Oui, parce que là, dans le cas de Prospera, j'imagine bien que s'il y a quelque chose qui se passe mal, ils vont se réfugier derrière le... Ils le savaient que, ma foi, c'était à leur risque et péril. Et les entreprises qui sont à Prospera ne peuvent pas se faire attaquer derrière de « Non, mais si, vous auriez quand même dû mieux informer, machin. » Parce que du coup, ils ont choisi qu'il n'y aurait pas ce genre de poursuite possible. Quoi.
Ouais.
Alors qu'une situation similaire... dans à peu près tous les pays, j'imagine. Même s'il se réfugie derrière le « oui, mais bon, il a signé le contrat pour dire qu'il était conscient des risques », c'est vrai, mais t'as pas le droit de le faire, en fait. Je suis tout à fait OK avec la responsabilité individuelle de ces gens. T'es multimillionnaire et tu veux aller tester si... j'invente un truc, hein, je sais pas si ça existe, mais tu veux aller tester si une dose magnétique intense sur ton cerveau fait que t'as plus besoin de dormir que 2 heures par nuit, par exemple. Ça se passe mal et t'as des problèmes plus tard, voilà. Bah écoute, ça t'es pas très bien testé. T'as voulu faire des trucs super en avance sans que ça ait été bien encadré par de la recherche scientifique de longue durée. T'as choisi, tant pis quoi. Et comme c'est une population très spécifique et un accès qui est très compliqué, ils pouvaient tout à fait l'éviter et ça se passait bien pour eux. Un peu comme toi, j'ai pas trop triste pour eux. Ils avaient qu'à faire comme tout le monde, j'ai envie de dire. Par contre, le petit truc où je suis un peu, pas critique, mais plus ambivalent, je ne sais pas trop où me placer. Oui, peut-être que de pouvoir dire, on a un truc expérimental, bah, comme je pouvais expliquer, là, encore une fois, je ne sais pas si ça existe, mais de magnétisme sur le cerveau, ça fait peut-être moins dormir les gens, mais du coup, il faut qu'on le teste avec bah, des vraies personnes, quoi, parce qu'on l'a juste testé sur des primates, puis voilà. Mais que d'avoir des autorisations pour le faire dans les pays occidentaux, c'est long et compliqué. Et du coup, on aimerait pouvoir faire avancer la recherche puis mettre ça sur le marché parce que ça peut bénéficier à des gens, par exemple. Effectivement, peut-être que la recherche, elle peut avancer plus vite comme ça. Il y a des gens qui prennent des risques et si du coup, ils ont des problèmes, ben merci à vous d'avoir pris le risque puis d'avoir fait avancer la science avec des données. Voilà. Mais de l'autre côté, je ne sais quand même pas trop... dans quelle mesure les résultats scientifiques seraient un peu biaisés parce que déjà, il ne va pas y avoir tant que ça d'échantillons. Quoi. Je pense qu'il n'y a peut-être qu'une dizaine ou une vingtaine de personnes qui pourront aller faire le truc.
Mmh, ouais.
Ce n'est pas vraiment suffisant pour avoir des données scientifiques solides pour qu'après, l'entreprise puisse arriver chez les régulateurs occidentaux et dire « Mais regardez, tout va bien, donc maintenant, donnez-nous une autorisation de mise sur le marché. » Donc, je ne suis pas sûr que ça fasse tellement avancer la science en termes de rapidité parce qu'il faudra de toute façon faire les études derrière... Est-ce qu'il y aurait un risque aussi que ces entreprises elles restent en permanence dans la non-régulation parce que maintenant on a découvert tel truc, on a ces retours-là, donc on change un tout petit peu notre manière de faire, ça progresse un petit peu peut-être, ok, mais qui continuent à vendre un produit et à distribuer un traitement toujours non-régulé en fait. Puis du coup, est-ce que ça a fait avancer l'état des connaissances pour le public général et que ce soit à leur disposition, je ne suis pas sûr que ça change quoi que ce soit. Quoi.
Sur la partie validité scientifique, ça dépend comment l'étude a été faite. Si c'est des choses qui sont vraiment réalisées en double aveugle, ce type de choses, etc. On peut, même si c'est des tests qui sont faits sur peu d'individus, ça reste une information supplémentaire qui n'est pas suffisante pour en faire un traitement définitif avec une législation derrière, etc. Moi, ce que je vois aussi, c'est que pour l'instant, c'est des millionnaires milliardaires qui vont faire des traitements expérimentaux. Mais à quel moment l'entreprise médicale à Prospera, elle ne va pas commencer à donner de l'argent aux populations locales pour tester des trucs, quoi. Qu'est-ce qui leur empêche de faire ça? Apparemment, rien.
Légalement, non, tout à fait.
Moi, ce que je vois surtout avec ce genre de ville, c'est ce genre de dérives, en fait, qui vont... Au-delà du fait que, apparemment, économiquement parlant, ça n'a pas d'avantage pour les communautés locales. Ensuite, il va y avoir toutes ces problématiques de comportement complètement non éthique autour de la recherche en médecine, à mon avis.
On ne sait pas si c'est le cas ou pas et si ça peut arriver, mais c'est vrai que c'est un risque.
Mais je vois ça en risque dans des pays qui sont relativement pauvres, ça veut aussi dire que les salaires annuels des populations locales sont bas. Donc ça veut dire, premier réflexe, tu donnes la moitié du salaire annuel pour tester un traitement quelconque, tu vas avoir des gens qui vont le faire. C'est quasiment sûr.
J'imagine bien que pour une entreprise de Prospera qui est financée par des milliardaires, qui vend certains de ses services à des milliardaires, si demain ils disent « habitants du Honduras, venez tester notre pilule, vous avez à en prendre une, puis on vous donne 2 000 $ », eux, ça leur coûte pas grand-chose. Par contre, les gens du Honduras qui vont gagner 2 000 $ pour prendre 5 pilules, je comprends que ce soit attirant, quoi.
Je pense que ça va avoir lieu à un moment donné. Il y a un jour, on va avoir un scandale lié à ça. Ce que je trouve extrêmement problématique avec tout ce qui est recherche biologique, c'est à un moment donné, il y aura forcément une entreprise qui va s'installer là-bas pour et qui va travailler sur des bactéries, des virus. Et qu'est-ce qui se passe le moment où une bactérie ou un virus dangereux quitte le labo, quoi?
Il n'y a pas besoin d'avoir peut-être les mêmes normes de sécurité que...
Bah, c'est ça. Ils choisissent leur propre cadre réglementaire. Ce n'est pas du tout un risque théorique. Hein. C'est des risques qui ont déjà eu lieu. Il y a déjà eu des problèmes avec des êtres vivants, au final, qui s'échappent du laboratoire et qui posent énormément de problèmes. Dans la Méditerranée, actuellement, le problème des algues invasives, il est en partie dû à l'élévation du pH à cause de la pollution et ce genre de choses, mais il est aussi apparemment dû à une négligence dans certains laboratoires qui ont rejeté des algues dans la mer. Et ces algues se sont mises à envahir la Méditerranée. Alors ça, c'est aussi un truc plus ou moins en cours, parce qu'évidemment, c'est un peu dur de dire d'où viennent exactement ces algues, mais on a dans l'histoire des cas comme ça, et puis dans les laboratoires de biologie qui travaillent même sur des choses qui sont non vivantes, les règles et les restrictions et les limites de ce qu'ils peuvent rentrer, quitter le labo, etc. C'est pas n'importe qui, à n'importe quelle heure ou ce type de choses. Hein. Il y a vraiment un suivi. C'est pas trivial. Faire ça dans un endroit où il y a zéro législation, où le seul intérêt, c'est la pure économie, ce qui va se passer, c'est que c'est toujours moins cher de pas mettre en place des protections. Donc, ils vont pas être mis en place, quoi. Enfin, je sais pas. Ce genre de choses, moi, ça me paraît tellement logique que je comprends même pas que... Enfin, si, je comprends, je sais pourquoi l'ex-président du Honduras a fait ça. C'est parce qu'il a été payé pour faire ça. Il y a pas, enfin, je vois pas comment il peut ne pas y avoir de corruption dans tout ça, quoi.
Au minimum, s'il n'y a pas de la corruption financière, il y a potentiellement, bêtement, un calcul électoral de dire « Je présente ça à mes électeurs comme « Regardez, j'amène cette ville ici, tous ces investisseurs multimilliardaires » ils vont nous reverser 20% de je sais pas quoi, ça va permettre à la région de se développer, machin. Hop, on a voté pour moi, c'est très bien, merci. Et si derrière, il se passe rien, hop, ça m'est bien égal. En fait, maintenant que j'ai eu mon élection, c'est OK, quoi. Cette corruption-là, en fait, elle me paraît suffisante. Et après, bon, alors effectivement, on ne sait pas, est-ce qu'il y a des histoires financières aussi plus directes?
Même s'il n'y a pas d'échange d'argent, c'est un échange de services. Quand tu rends service et que tu fais très plaisir à des gens très très riches, tu t'accordes aussi les faveurs de gens très 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 riches qui ont beaucoup de pouvoir.
Le problème de Prospera, qui est d'ailleurs un peu dénoncé par Paul Romer, prix Nobel d'économie, là, qui a lancé l'idée de ces Charter City, hein, qui dit aujourd'hui que dans le cadre de Prospera, ils se sont un peu perdus et que ça n'a plus vraiment la vision originelle. L'impression qui me reste, c'est que c'est vraiment des milliardaires qui veulent juste pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, sans aucune contrainte, mais surtout sans aucune responsabilité non plus. C'est un peu facile de dire que c'est bien et de vouloir ça quand ils sont déjà en position de pouvoir, en fait, parce qu'ils sont juste avides de plus de pouvoir et de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent sans devoir rendre des comptes. Alors que si ça parlait de... donner ça à tout le monde, de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent à tout le monde, c'est pas dit qu'ils aient le même avis. C'est juste que ça les arrange bien parce qu'eux, ils sont déjà en position de force et qu'ils sont ennuyés quand on leur dit « Dites donc, peut-être que vous abusez un peu. Soit, oh, ben, puisque c'est comme ça, je vais aller fonder mon propre état dans lequel il n'y en aura pas. » Et voilà. Et, enfin, on dirait vraiment l'enfant de 12 ans qui boude. Ouais. « Puisque je dois ranger ma chambre, eh ben, je vais partir pour aller faire ma cabane dans les bois. » Tu vois.
Ouais, on est un peu à ce niveau-là, j'ai l'impression aussi.
Puis, comme on l'a mentionné aussi au début, il y a tout l'aspect crypto-monnaie. Moi, je le perçois quand même pas mal comme aussi des gens qui sont devenus riches soudainement parce que bah, ils ont eu de la chance, on peut dire ça, plus de la chance que du flair, en gagnant beaucoup d'argent avec des crypto-monnaies. Et du coup, ils veulent développer tout ça et conserver leur argent sans devoir payer d'impôts, sans être assujetti à une redistribution des richesses non plus. C'est aussi une justification, peut-être sans se l'avouer, de planquer son argent, en fait. Ce qui était d'ailleurs une des citations qui revenait... On ne veut pas payer d'impôts parce que ça nous empêche de faire des choses. Ouais, ça t'empêche surtout d'accumuler de la thune et de la garder pour toi, j'ai l'impression. Mais...
C'est complètement ça.
J'ai retrouvé la citation là, de Jason Hartgrave, qui est défini comme entrepreneur dans l'article. Et la citation, c'est « Les impôts, c'est du vol. » L'utilisation de son capital devrait relever de la liberté individuelle et non de la collectivité parce que ça bride son esprit d'entreprise. Mm-hmm. Pauvre bébou, il est tout bridé. Oh non.
Tout ça, c'est aussi une vision du self-made man qui est complètement fausse, en fait, parce que comment est-ce qu'on finance l'infrastructure qui permet de se déplacer? Comment est-ce qu'on finance tout ce qui est le bien commun et qui est nécessaire au fonctionnement de la société, en fait? Parce que les gens qui se disent self-made men, qui ont fait leur fortune avec leur sueur, etc., ils ont rarement fait leur fortune avec leur sueur et leur sang. Ils ont très souvent hérité d'une fortune. Ils ont très souvent profité d'une infrastructure préexistante dans le pays où ils habitent. Ils sont tous sauf faits eux-mêmes, quoi.
Je ne sais pas exactement les montants et les trucs, mais il n'y a pas une histoire comme ça, genre Elon Musk, qui dit qu'il a tout fait lui-même en fondant des sociétés, machin, machin. Oui, la petite astérisque, c'est qu'il a hérité de 100 millions de son père, un truc comme ça.
Dans le cas d'Elon Musk, c'est encore pire que ça. C'est un arnaqueur et un menteur complet. Il n'a fondé qu'une seule et unique société dans sa vie qui n'a pas marché. Tout le reste, il l'a acheté. Et en l'achetant, il a fait en sorte de modifier l'histoire de l'entreprise pour virer les fondateurs. C'est-à-dire que souvent, on entend dire Elon Musk, il a fondé Tesla ou autre. Non, Elon Musk, il est rentré dans le board de Tesla et de manière très hostile, il a viré les fondateurs de Tesla. SpaceX, c'est pareil, il est rentré dans le board, il a acheté, etc. Neuralink, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il a acheté. Dans les interviews, il dit qu'il vient d'une famille... Je ne crois pas qu'il ose dire pauvre, mais au moins il dit de classe moyenne. En fait, non, ses parents sont millionnaires, il a hérité d'une énorme fortune. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'il a pu fonder son entreprise initiale.
Mais il ne faut pas qu'il paye d'impôts parce qu'après, sinon, il ne peut pas entreprendre comme il faut. Donc,
C'est ça. On est vraiment rentré dans un système où on a mis les milliardaires, les millionnaires sur un piédestal. Comme si c'était eux qui faisaient tourner l'économie, qui apportaient quelque chose à nos sociétés.
Le fameux ruissellement, justement.
Alors que dans les faits, ça n'est pas le cas. De mon point de vue, le capitalisme, il pousse à l'apparition de ces gens-là. Parce que forcément, si la seule chose qui compte, c'est créer du capital, bah, c'est les gens qui vont en accumuler le plus qui vont être les gagnants du système. Ça fait partie de la logique du système. Mais clairement, d'un point de vue société civile, d'un point de vue développement d'une société juste où tous les humains ont des droits, les mêmes droits et l'accès à toutes les choses de base librement, les milliardaires, les millionnaires, ce sont des parasites, quoi. Mais ils se présentent avec une mystique qui les entoure, un mythe fondateur de la sueur, le sang, je viens d'une famille pauvre, etc., etc. Et j'ai réussi à grimper les échelons un à un. En fait, non. Mais ça marche. C'est vraiment hallucinant le niveau d'aveuglement que les gens qui suivent Elon Musk, parce qu'on est à ce niveau, on a l'impression que c'est un dieu, quoi, pour ces gens-là. C'est très, très bizarre, je trouve.
Le vernis s'est bien effrité, plus qu'effrité même. Par rapport au début, mais il y a effectivement encore des gens convaincus qui font avancer les choses. Peu de choses qui profitent à tout le monde dans ce qu'il fait. Mais...
Ouais, et puis dans certains cas aussi, on ne se rend pas compte de ses fortunes. On ne se rend pas compte de l'échelle de différence qu'il y a entre une personne moyenne et ces gens-là. Il y a un site d'ailleurs qui est très, très, très bien pour ça, lafortunedebernard.fr.
Ah, de Bernard Arnault, je pense.
Exactement. Donc Bernard Arnault qui... posséderait, parce que de nouveau, on ne sait jamais trop exactement, 182 milliards de dollars. Ça ne représente rien, quoi. C'est un chiffre d'une certaine manière. Et ce site représente visuellement la fortune.
Ouais.
Avec, on démarre par un carré qui dit, voilà, ça c'est un SMIC temps plein mensuel. Donc en France, le SMIC au 1er janvier 2025, c'était 1426,30 euros. C'est un petit pixel sur l'écran. Et ensuite, ben, on scrolle dans la fortune de Bernard. C'est-à-dire qu'on descend dans la page, il y a des tas de pixels. Donc, le rectangle ensuite, après le SMIC, c'est le revenu médian d'un ménage en France, 30 620. Ça représente 21 mois de SMIC. Puis ensuite, on représente visuellement 1 million d'euros, qui sont 701 SMIC. Et donc, 1 million d'euros, on est sur 20 pixels par 20 pixels, en gros. C'est pas gros. Et on parle d'un million, là. On n'a toujours pas parlé du premier pourcent de la fortune.
Ouais.
Et donc, ça scroll comme ça. Et c'est un site extrêmement bien pour ça, parce qu'il représente visuellement la fortune de ces gens. Il met aussi dans le site les différents prix. Le montant estimé de la fraude sociale, par exemple, en France, il correspondrait à 1,46% de la fortune. À 0,2% de la fortune de Bernard Arnault, il y a le déficit cumulé des hôpitaux fin 2022 en France. Il suffirait de lui taxer 0,2%, on n'aurait pas de déficit dans les hôpitaux en France.
Pour une année, mais... Ouais, non,
c'est... Pour une année, évidemment, mais c'est... on va le taxer tous les ans quand même, j'espère. Enfin voilà, c'est un site vraiment bien. Moi, je conseille vraiment d'aller le voir, lafortunedebernard.fr, parce qu'il nous permet de réaliser visuellement ce que c'est que ces sommes.
On s'écarte un peu du truc, mais c'est clairement aussi des gens qui accumulent quand même beaucoup et qui continuent à essayer de faire des trucs pour éviter le plus possible des contraintes et des responsabilités dont certains vont essayer de s'installer à Prospera pour faire que leurs entreprises payent pas d'impôts ou le minimum possible. Pour conclure, Prospera, sur le principe, en tout cas, dont ça fonctionne actuellement, est-ce que tu es pour ou contre ?
Tel que c'est actuellement, non. Je ne pense vraiment pas que c'est une bonne idée. Je ne suis pas contre cette idée de créer des petits États ou des villes qui auraient des droits spécifiques pour faire des expérimentations spécifiques. Je pense que c'est quelque chose qui aurait du sens, mais il faut une législation autour de ça, il faut des limites. Même si eux n'en ont pas envie, la seule manière de faire quelque chose qui aide tout le monde, au final, c'est quand même qu'il y ait un certain nombre de limites qui guident l'expérience. Mm-hmm. Parce que là, il n'y a pas de guide, c'est leur propre décision. Et toi, de ton point de vue, est-ce que Prospera vaut le coup ?
Sous la forme actuelle, non, je ne pense pas. Je pense que les gains qui pourraient en ressortir sont absolument minimes par rapport à tous les problèmes qui vont avec. Sur une autre forme où c'est pas des choses privées, mais peut-être un État qui en paye un autre, peut-être, mais j'arrive pas à me dire si c'est du colonialisme déguisé. Tu vois, si dans le sens où, au lieu que ce soit Prospera, c'était le gouvernement des États-Unis, et du coup, les règles qui s'appliquent à Prospera, ce seraient les lois américaines. Ce serait déjà mieux, mais je ne sais pas si je suis trop d'accord avec ça. Il y a quand même cette idée d'exploitation, l'air de rien.
Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est ressorti dans l'un des articles qu'on avait lu, une nouvelle forme économique de colonialisme. C'est un gros risque. Ouais. Moi, je verrais ça plus comme, j'imagine, la Suisse qui décide qu'on prend une petite zone dans je ne sais pas quel canton, ou un canton suisse qui décide de... lever certaines restrictions dans une zone spécifique, mais pas toutes les restrictions, juste certaines pour expérimenter avec quelque chose de spécifique. Donc ce serait un État qui expérimenterait sur lui-même au final. Qu'un État puisse, ou une entité privée puisse expérimenter dans un autre État ou des choses comme ça, il y a vraiment un risque de se rapprocher avec une nouvelle forme de colonialisme, je trouve, même si je ne suis pas du tout pour la notion de frontière et ce genre de choses, hein, mais on est un peu coincé par ça.
Ça ne me paraît pas très égalitaire. J'ai toujours l'impression qu'il y a une exploitation d'un pays par un autre. Mais ouais. Et puis, sous-jacent à tout ça, ces histoires de responsabilité individuelle poussées à mort de ces personnes en position de force, donc soit financière, soit de pouvoir, en gros, qui veulent pouvoir faire tout ce qu'ils veulent sans contrainte ni responsabilité, ça rejoint un petit peu une idéologie qui émerge depuis quelques... années, on peut dire. Je suis tombé sur ces termes de technofascisme que du coup je connais pas très bien. C'est peut-être quelque chose dont on aura l'occasion de reparler par ici. Ce futur épisode, si on en reparle, comment est-ce qu'on pourra nous retrouver ? Où est-ce que les gens ils pourront nous écouter ?
Si vous voulez être sûr de ne louper aucun épisode, eh bien, depuis notre site internet tâche avec un s-2-t.fm. Il y a sur le site un flux RSS qui permet de s'abonner ou les liens vers les différentes applications de podcast que vous pourriez utiliser. Donc, si vous ne voulez pas louper la suite, abonnez-vous. Mais aussi, si l'épisode vous a intéressé, bah déjà, si vous avez votre avis sur la question ou des liens intéressants à nous envoyer, n'hésitez pas. De même, sur notre site, il y a les liens vers les réseaux sociaux et un email. Et puis sinon, n'hésitez pas à partager l'épisode aussi si vous pensez que quelqu'un dans votre entourage serait intéressé. Sur ce, au revoir jusqu'au prochain épisode.
À bientôt, bye bye.
Qui craque. Ça s'est pas entendu, je crois, sur l'enregistrement.
J'ai pas entendu, effectivement.